Conférence qui intéresse surtout les brasseries artisanales, mais qui peut-être vous aussi, typique ici au Tipeee, peuvent vous intéresser.
J'ai confondu, monsieur l'agent.
Ah, pour souffler. J'ai cru que tu me fais. Heureusement que je n'étais pas en train d'écouter, parce que là, c'est...
C'est un réflexe de merde, tu sais.
J'ai jamais soufflé, là, c'est tout. T'as vu, toi?
Ça m'est arrivé nos deux fois, ouais. Ouais. Ah ouais. Bah, dans le canton de Vaud, évidemment, puis en France.
Ah ouais, ouais. Et puis, tu te soufflais comment? T'as vu comment on souffle pas fort quand on doit le faire?
Ouais, ça, mais ouais. Il faut pas essayer de prendre trop fond des poumons et des poumons. Ouais. Et puis j'avais été renseigné, donc j'avais pris de l'eau très froide. Parce qu'on mesure l'alcool en phase vapeur. Hein.
Ah ouais.
Donc okay. Si t'as de l'eau froide, ça fait condenser la phase vapeur.
Ok.
Donc t'en as un peu moins. Ouais. Je venais de boire 2-3 sakés, puis j'avais zéro. Donc ça marche pas mal.
Ah ouais. Mais tu les as vus, puis t'avais de l'eau fraîche avec toi ou bien?
Ouais. Mais j'ai toujours un peu d'eau fraîche avec moi.
Ça marche bien.
Ah, mais les plus fraîches, nous, you know what I mean.
T'as des échanges, des échantillons pour la bière. C'est en tout sens.
Ah, toujours ils sont là, les pas ça.
Ouais. Non, parce que j'ai entendu que c'était tout le temps là. C'était l'eau qui faisait toute la
différence. Ouais, je suis pas sûr, quoi.
Ah ouais.
Ouais, bah c'est comme ici, en fait.
C'est ici, là.
Ouais,
j'ai compris.
Non, on prend ma page.
Je m'en marque pas, évidemment.
Alors, Antonio, prends tes lunettes, tu peux venir vite
dans le studio. T'as pensé à la télescopage entre. Hein, t'as pas pensé à ça. Hein.
C'est bon,
faudra couper au montage.
J'ai pas encore 0,5, j'ai soufflé. Il a sorti le truc, je fais.
T'étais surpris.
On va tous se réunir ici au Tipeee sous le soleil de Nada et des Quatre Vallées.
Alors, à la prise de sang, ça marche
juste
pas,
avec vous dire quelques mots.
Mais de l'eau bien froide, ça
c'est quand même avec pas mal d'émotion et beaucoup de plaisir que la petite idée qui a germé dans la brasserie artisanale de la Grenade, la brasserie de Nada avec mon ami Xavier, qui est là, a avancé un petit peu et puis fait un joli petit bout de chemin pour arriver à cette deuxième édition de réunir des brasseurs passionnés de la Suisse romande, et c'est ainsi qu'on passe ensemble un magnifique week-end et une magnifique journée. Je remercie et dis un grand merci chaleureux à mes collègues du comité. À mes collègues du comité, Sandrine, Tosh qui est en station, et Fred. Bravo pour l'organisation, c'est un plaisir de travailler avec vous. Bien sûr qu'on vous donne rendez-vous l'année prochaine et vous serez certainement tous présents et bien plus de monde encore pour ces bons moments. Voilà, sans trop de blabla encore, je passe la parole à Fred pour nous présenter Jérôme pour sa conférence. Merci à vous.
Voilà, alors ça sera un petit peu freestyle avec les Antonio et les Géraldine qui vont venir chercher leur burger et leur bière. Mais c'est pas grave, c'est un petit peu freestyle comme événement. De toute façon, c'est les brasseurs qui sont venus sur la montagne pour faire du ski. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Jérôme Rebeté, qui est le fondateur
et
de la bière.
Antonio.
Voilà, Antonio, et Antonio, tu fais quoi? Voilà, Antonio, dépêche-toi. Hein. Donc, Jérôme. Pardon? Donc Jérôme, ça fait 22 ans qu'il a créé la bière BFM, bière des Franches-Montagnes. C'était un des pionniers de la bière artisanale en Suisse romande. Et aujourd'hui, il est là pour discuter avec vous, amis brasseurs qui êtes venus skier avec nous aujourd'hui, pour parler un petit peu des défis qui attendent finalement la bière, la brasserie artisanale dans les 5 prochaines années en Suisse romande. Je passe la parole à Jérôme qui nous fait l'honneur d'être là et je le remercie d'avoir décidé de prendre la parole avec nous. Merci Jérôme.
Merci. Bon, alors, effectivement, on va parler un petit peu de quelques défis qui nous attendent. Je pense que c'est plus intéressant que de faire du storytelling à la con, surtout entre gens du métier. C'est plus intéressant. Alors, quand je dis les 5 prochaines années, c'est les 5 prochaines années civiles. Puisqu'en brasserie, c'est un peu comme les jazz de chiens. Si vous avez un chien qui a 5 ans, en fait, il a 5 x 7, 35 ans. Vous connaissez cette histoire-là. Hein. Sur les brasseries, le truc va environ 7 fois plus vite à mon goût. Donc, c'est à peu près dans les 35 prochaines années, qu'est-ce qui va se passer? Mais qui seront que 5 années civiles pour les autres. Hein. Alors, je vais parler un petit peu de la situation du marché. comment, à mon avis, on peut augmenter les parts de marché des bières artisanales, de prix, et puis de 2-3 autres problèmes qui, à mon avis, sont importants de souligner. Vous l'avez vu, hein, dans les situations du marché, on dit qu'il y a environ 1000 brasseries en Suisse. À mon avis, c'est de la connerie. Puisque je vois mal, enfin, moi j'aime bien faire à manger, j'ai des copains qui sont venus il y a 2 jours, je n'ai pas de restaurant. Donc le gars qui fait 2000 litres chez lui, ben, il s'amuse, c'est très bien quoi. Mais c'est, j'appelle pas ça franchement un métier. Je pense même que ces 400 litres par an par habitant, ça devrait plafonner à 2000 ou à 5000 litres par an, ou quelque chose comme ça. Et même si on n'est pas inscrit au registre du commerce, peut-être qu'on n'aurait pas le droit de vendre de la bière. Puisqu'on a des contraintes en travaillant professionnellement qu'on ne respecte pas avec des petites échelles. Et qui peuvent par exemple mettre en danger le consommateur. Et là je trouve qu'il y a une limite. Ça me regarde uniquement moi. Mais si vous regardez les tailles des brasseries, ça va nous permettre d'essayer un petit peu de définir ce qu'est une brasserie artisanale. J'ai vu qu'il y en avait environ 16 en Suisse qui font 10 000, 100 000 ou 250 millions d'hectolitres, on s'en fout, beaucoup. Il y en a environ 8 qui font entre 5 000 et 10 000 hectolitres. Pour arriver à cette taille-là, j'estime que l'investissement pour y arriver, parce que voilà, il est entre 5 à 10 millions au niveau du matériel uniquement. Il y en a environ 25 à 30 qui font entre 1 000 et 5 000 hectolitres. Pour moi, le seuil de rentabilité d'une brasserie un peu organisée se situe entre 1000 et 2000 hectolitres par année. En dessous, c'est très difficile d'y arriver. Alors, vous êtes tous en train de cravacher peut-être à faire 500, 600, à bosser seul avec des potes qui vous passent des coups de main. Ça, c'est viable. Mais si vous voulez faire un saut plus grand puis en faire une entreprise, il faut viser 1000 à 2000 hectolitres au minimum sans sortir. C'est ce que j'ai remarqué, mais c'est aussi quelque chose de mathématique. Hein. Et puis, il y en a une centaine qui sont entre 100 et 1000 hectos. Là, c'est un terreau qui est intéressant. Puisque cet héros, il y a plein de gens qui vont faire le pas, ou pas, qui vont s'investir, qui y croient et qui commencent. C'est une espèce de terreau de start-up, hein. C'est la, je sais pas, la Loupoulon Valley, on pourrait appeler ça, quoi. Puis après, il y en a 800 où ils font à côté de leur job, je sais pas combien, quoi. Enfin, pour situer le truc. Et puis, au niveau des parts de marché, moi, je crois pas que, franchement, au niveau bière artisanale, on est plus que 3 à 5% en Suisse. Ça fait quand même peu. Sur environ 50 litres de bière par habitant et par an, 54, mais pour faire simple, 54 x 5%, ça fait 2 litres et demi. 2 litres et demi, ça fait 8 bouteilles. Donc on a encore vraiment un gros job à faire. Puis je vais un peu insister là-dessus, puisque c'est la manière de faire le job qui est importante pour que nous augmentions nos parts de marché cumulées. C'est comme ça qu'on arrive à gagner quelque chose. Déjà, il faut se définir un ennemi. Je crois que c'est important. C'est qui l'ennemi? C'est ces enculés d'Indus, quoi. En français. C'est eux, c'est pas forcément l'autre brasserie qui est à côté, c'est pas forcément votre voisin. Mais faut vraiment aller se battre contre ceux qui font des bouteilles vertes. C'est eux les enfoirés. Et c'est à eux qu'il faut prendre des parts de marché. C'est important de s'en rappeler de ça, quoi. Aux USA, ils conviennent qu'il y a 20 à 25% de parts de marché. Si en Suisse, on passe de maintenant 3 à 5 à 8 ou 9, je vous promets qu'on aura tous à manger, hein. Ça y a aucun problème. On aura peut-être des problèmes structurels pour la croissance. Mais il faut vraiment faire un fight puis le faire de manière unie. Si on va chacun de notre côté à se tirer dans les pattes, ça va jamais marcher. Et parfois, je vois ça tout de même. Hein. Donc, je vais me permettre de le dire. Alors, notamment dans la part des marchés craft, ce que j'ai remarqué... Dave, bienvenue. C'est de la chasse aux nouveaux clients. La chasse aux nouveaux clients, ça veut dire des nouveaux clients. C'est les gens qui ne consommaient pas de bière artisanale. Souvent, trop souvent, je déplore le fait... que je vois des gars qui ont des petites brasseries qui viennent essayer de nous bouffer des parts de marché. Alors moi, je partage pas mes points de vente, je déteste ça. C'est officiel, parce que c'est ça qui me fait faire du chiffre d'affaires, qui fait payer mes employés, qui me fait investir pour développer des autres bières. Donc j'aime pas partager ça. Mais je trouve cette espèce de réflexe trop facile. Il faut aller se battre puis aller convaincre le bistrot qui est à côté de boire votre bière. Et il faut lui faire goûter, c'est pas les social media à la con qui vont faire goûter ça. Faut s'asseoir avec les gars, faut leur faire goûter, faut leur expliquer pourquoi c'est différent. C'est comme ça qu'on va y arriver. Ça fait plus que 20 ans qu'on fait ça et on fait goûter aux gens. Je déteste quand mes commerciaux laissent des échantillons. Non, tu t'assois, tu fais goûter aux gens. Tu lui expliques pourquoi c'est comme ça. Et c'est là qu'on arrive à sensibiliser des gens. C'est pas en allant dire, ah là il y a BFM, là il y a White Frontier, là il y a je sais pas quoi, donc je vais mettre ma bière là-bas. Vous pouvez. Mais vous êtes sûr que dans les 2 à 3 semaines, il y en a un qui aura la même idée que vous, qui va aussi aller mettre sa bière là. Et puis, ça va faire un feu de paille. Donc, c'est pas du business qui est durable pour faire ça. Et c'est important de sensibiliser des nouvelles gens à consommer ça. Et il y a différentes manières, je pense, de le faire. Dans les trucs que j'ai remarqué qui sont assez rentables et qui permettent de développer aussi un tourisme, c'est les taprooms. C'est faire un débit de votre brasserie. C'est presque ici, il est ouvert une fois par jour. Il y a beaucoup de gens qui voyagent. On voit à la brasserie des gens qui viennent d'Australie, des États-Unis, du Japon, qui viennent chaque semaine quasiment, qui passent dans notre bar parce qu'il est ouvert. Quand il n'était pas ouvert, il n'y avait pas cette occasion-là. Mais si on avait 12 autres, ça permet de faire des tours. Vous avez déjà tous fait du tourisme brassicole. Ben oui, ben pourquoi on n'en ferait pas chez nous? Et ça, ça permet de faire du cash, de montrer ce qu'on sait faire. Ça, je crois que c'est un bon développement à faire. C'est un peu chiant, il faut faire les écoles de cafetier, tout ce merde, mais c'est pas grave. De nouveau, j'ai noté, c'est les Indus qui doivent être notre ennemi commun. De toute façon, c'est des fils de chiens. De toute façon. Hein ? Ils vont tout faire pour nous casser, ils sont bien contents. Puis vous verrez, je vais parler un petit peu des investissements des brasseries. Ils savent très bien que tout le monde fait ça, puis que c'est une immense niche pour eux, qu'ils sont encore super confortables, quoi. Personnellement, quand je vois Brasserie Valaisanne qui tape un truc, ils ont fait un machin artisanal, et ben je leur pisse dessus. Je leur dis, oh, des faux hipsters qui font semblant d'être des artisanaux, comme c'est magnifique. Je vous invite à le faire aussi. Quand vous voyez des fausses brasseries qui font ça, ben allez-y, pourrissez-les sur les réseaux sociaux, ça mange pas de pain. Ça fait rire les gens, c'est partagé 30 fois, comme la dernière connerie que j'ai faite. Faut pas hésiter. C'est de la com, quoi. Et je crois qu'il faut, y a une notion aussi qu'on doit petit à petit faire comprendre, puisque brasserie artisanale, il n'existe pas de définition légale en Suisse, ce qui est un problème. On va parler juste après de ce qu'est une brasserie artisanale à mon sens. Mais je crois que la valeur, c'est une brasserie indépendante. On a vu quand même pas mal de fois maintenant des brasseries d'une taille relativement petite qui ont été rachetées, où il y a des grands groupes qui ont foutu du pognon dedans. Et ça, c'est un critère. Si vous êtes indépendant, c'est un peu comme le vigneron en caveur. C'est l'espèce de garantie. Ok, on a une brasserie qui est relativement grande, c'est quand même moi qui ai 70% de l'actionnariat, puis je suis CEO. C'est pas des espèces de fonds, des hedge funds à la con, hein, qui sont venus mettre du pognon là-dedans parce que c'est à la mode. Et je pense que c'est un critère qui est important dans la direction puis dans la personnalité. C'est aussi du pognon qui reste dans la région. Faut pas croire, Heineken, ils doivent pas payer beaucoup d'impôts en Suisse. Hein. Juste pour que les gars soient pas trop fâchés avec eux, puis c'est tout. Hein. Et puis, il faut maintenir un prix correct. Faites attention à ça, ne sombrez pas dans le dumping, c'est ridicule. C'est sous-évalué ce que vous faites comme boulot, c'est nul. Combien de fois je vois, ah ouais, BFM sont là, ben écoute, on te fait 25% sur leur prix. Moi, j'ai pas 25% de marge, comment vous faites? Vous perdez du fric? Est-ce que c'est vraiment la manière de développer un business? Est-ce que vous n'avez pas honte de vendre moins cher que des bières industrielles? C'est une honte de vendre moins cher que des bières industrielles. Quand je vois des bières artisanales à 3 balles ou 3,50, je me dis c'est scandaleux, c'est complètement débile. On scie la branche sur laquelle on est assise. C'est pas comme ça qu'il faut faire, à mon avis. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais moi j'ai encore l'intention de faire ça un moment. Définition légale de la craft. Il y a le fait de à qui appartiennent les capitaux. J'en ai parlé avant. Est-ce que c'est un fonds de pension qui vient d'Australie ou est-ce que c'est votre voisin et vous? Quelqu'un qui bosse à la brasserie. Ensuite, il y a quand même quelque chose à voir avec la recette. Hein, on a vu des chaînes de brewpub, c'est vraiment nul ce qu'ils font. À mon avis, ils ne mériteraient pas. Mais ça, c'est un jugement personnel que je permets de ne pas partager. Et il y a peut-être aussi un petit peu des limites au niveau de la technologie et des process. Chez moi, j'ai du mal avec la centrifugation, la filtration. Et je trouve du moment où on pasteurise, ça ne devient plus tellement artisanal. Il y a d'autres manières de faire des procédés. Hein. La vache qui rit, c'est du fromage. Il y a des fromages d'Etiva qui sont faits. Ils n'ont même pas de l'eau courante et ils font des trucs super. Donc on peut faire une bonne bière avec du goût, même en grande quantité, sans commencer à la castrer. C'est tout à fait faisable. Et après, il y a vaguement une question de taille. Mais on est quand même pas mal plus grand qu'il y a 10 ans. Je pense qu'on fait de la bière vachement meilleure qu'il y a 10 ans. Parce qu'on a aussi des moyens techniques. On a aussi pu engager des gens qui nous permettent d'arriver à ça. Donc la question de taille, elle est relative. Puis si vous voyez qu'aux États-Unis, je crois que c'est 500 millions d'hecto, la limite pour être une brasserie artisanale, il y a de la marge. Ou peut-être plus. Alors, le prix. J'en ai parlé avant. Faites attention. Si vous êtes à 3 balles en compétition avec un industriel, comment vous voulez que vous en sortir par rapport à eux qui font 300 fois votre volume? Nombre de litres divisé par 50 millions, nombre de litres divisé par 200 000. Hein, c'est pas la même chose. Faites attention à ça, quoi. Et surtout, ça va casser votre marque. Si vous cassez votre marque, ça va être difficile de remonter après coup. Et ça fait de la pression sur les gens qui n'ont pas envie de casser leur marque. Bêtement. Moi, j'aime pas négocier les prix. Ben, j'ai remarqué aussi, pour donner une autre idée, quand on est dans les 1000-2000 hectos, je crois que c'est vraiment difficile de faire de la bière à moins de 5 balles du litre en fût. Environ 100 balles le fût. À plus ou moins 20 centimes ou 30 centimes. Mais faites comme vous voulez, on a une analyse de coût qui est au centime chez nous et je sais combien ça coûte d'amener un fût de bière au tipi. Hein, je sais aussi que s'il y a 3 fûts qui sont fichus sur les 10 qu'on amène au tipi, ben là on a perdu vraiment beaucoup de pognon si on allait les rechercher. Donc faut faire attention à ça quoi. Une règle aussi, c'est si vous avez un prix qui est correct, ça vous permet aussi d'investir. Et ne me dites pas que vous n'avez pas tous derrière la tête une idée d'acheter une autre machine. Vous la financez comment? Si vos marges sont pas correctes, à la fin, il n'y a personne qui va te dire « Ah bah attends vieux, c'est vrai, tu l'as vendu 50 centimes pas assez cher, je te redonne encore sur tous les litres que tu m'as vendu depuis 10 ans. » Ça, je crois pas que ça va le faire, quoi. Et la règle numéro 3, je crois, j'ai appelé ça « Cesser d'être vaniteux ». Moi, j'adore la vanité. C'est de loin mon péché préféré. La luxure, j'aime bien. Mais la vanité, c'est hyper trop con. Parce que tout ce qu'on fait par vanité, c'est splendide. Si vous regardez. Hein. Ah ouais, mais écoute, c'est vrai que moi, il y a une brasserie qui a 10 kilos de chez moi. Mais je m'en fous, je vais acheter une chaîne de soutirage, mais plus grande que celle qu'il a achetée il y a 6 mois. Et oui, mais pourquoi est-ce que vous ne mettez pas vos forces en commun? Là, les gros, ils rigolent. Tout ce que vous devez investir dans du soutirage, et le soutirage, vous perdez du fric, et bien des fois, vous foutez en l'air vos bières parce que c'est pas les bonnes soutireuses. C'est hyper compliqué, hein, y a des états d'oxydation qui se font, on arrive à tout foutre en l'air en mettant en bouteille. Pensez un petit peu à fédérer ça, je pense que ça c'est important. J'ai vu là, à la Braumessé, il y a des remorques ou des voitures qui sont équipées avec des chaînes de soutirage ou des chaînes de soutirage canette. Peut-être qu'il faut développer un truc comme ça. Et puis bah, vous le louez une fois par mois ou deux fois par mois, je sais pas combien. Ça coûte pas très cher, vous avez en plus un gars qui sait le faire tourner, puis qui sait la nettoyer, et que c'est comment ça marche. Et vous, ça vous fait pas des frais fixes de débiles profonds. Je pense que ça c'est vraiment important d'y penser. Et ensuite, il y a le problème de qualité. C'est pénible, c'est vraiment pénible quand il y a une bière qui est pas bonne, de la foutre loin. Mais, bien des fois, et je dis aussi ça pour nous, bien sûr, bien des fois je goûte une bière dans un bistrot, et je ne la finis pas. Et je l'ai payé 8 balles. Et le mec qui goûte ça pour la première fois, le nouveau client qu'on a essayé de convaincre, hein, vous pensez qu'ils vont reboire à 8 balles?
Non.
Il faut vraiment être strict avec ça. Gardez les bouteilles de chaque lot, il faut les regoûter un mois, deux mois après. Faites des petits tests, il y a des petits tests simples pour contrôler si on a des bactéries ou des trucs comme ça dans les bières, c'est pas compliqué. Il y a des laboratoires, c'est pas très cher franchement. Imaginez ce que ça coûte de ramener un produit en ligne. De dire au client, mais c'est pas grave vieux, je te ferai quelque chose de meilleur après. Puis après il a rien à vendre parce qu'il vient de faire un contrat avec vous, puis vous êtes planté sur le truc à la pression. Ça c'est des trucs hyper délicats. Donc un focus sur la qualité, c'est quelque chose de vraiment uber important. Et c'est aussi ça qui distingue la bière. Parce que tout le monde dit, oui mais la bière artisanale elle est meilleure, elle a la meilleure qualité. Mais si elle est pourrie, puis qu'elle est acide parce qu'elle est infectée, pas parce que c'est voulu, ça va pas être terrible. Si elle est oxydée, c'est la même chose. Donc prenez garde tout de même à ça, c'est vraiment le truc qui fait qu'on peut se distinguer. C'est que dans la bouteille, ce soit bien. Parce que les moyens d'apparat, de marketing, de packaging, on n'en a pas par rapport aux autres grandes brasseries. On ne peut pas faire des immenses campagnes. Donc ce qu'il y a dedans doit correspondre au moins à ce qu'on prétend sur l'emballage. Je crois que c'est important. Alors j'ai parlé de mise en force de production. Et puis l'optimisation en achetant des trucs ensemble, ça je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment penser. Et puis au niveau des marchés à atteindre, je pense que comme il y a tellement de brasseries, on est un peu condamné à se concentrer sur un marché relativement régional. Je dis pas local, je dis pas Seignelay-Gier, Muriau ou bien seulement Sivier-Nada. Ça c'est débile, c'est un peu une vision de voir qu'on a en Suisse qui est trop restreinte pour aussi développer un business. Mais je vois mal comment une IPA qu'on fabriquerait ici se vendrait à Sydney. À Sydney, vous avez, je pense, 800 brasseries aussi. Donc c'est hyper difficile d'arriver à le faire. Brewdog, ils arrivent parce qu'ils sont uber grands. Ils sont super. Ouais, bah oui, ils sont partout et ils ont du pognon à crever. Nous, c'est pas forcément la même chose. Et je pense qu'il faut aussi, pour des raisons logistiques, si vous devez aller livrer à 5 heures de bagnole, revenir, c'est pas forcément là que c'est le plus rentable de faire ça. Et il faut convaincre de manière un peu locale. Et là, ça permet d'avoir une assise de clients qui est fidèle. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc, travailler le marché national. Et puis, J'ai remarqué aussi un truc qui me paraît bizarre, mais là je devrais presque vous demander de me payer pour ça. C'est que je vois souvent des brasseries qui sont très créatives. Ok, c'est cool d'être créatif, mais vous n'avez pas pris le temps d'identifier votre vache à lait. Donc vous allez faire 22 bières cette année, 18 pour la prochaine, puis vous n'avez pas identifié laquelle va payer vos factures. Chez nous, 55% du volume, 55, hein. Ça veut dire cette année à peu près 3000 hectos, c'est de la salamandre. Une sorte. Hein. Quand parfois il y a un gars qui me dit tu devrais changer la recette de la salamandre, j'ai dit mais bien sûr, va te faire foutre. Ben, donc c'est notre vache à lait. On sait qu'avec celle-là, plus deux autres, on va être 80% du volume. Je me suis déjà demandé pourquoi on faisait autre chose d'ailleurs. Ouais, parce que c'est fun, gna. Ok. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Identifier celle qui va faire le gros volume chez vous. Et puis, si vous avez 12 bières à vendre, il faut 12 ou 15 cuves. Vous aurez sans arrêt aussi des problèmes de rupture de stock. Ce sera beaucoup plus compliqué de faire plus d'investissements. Pas trop de sortes. Puis une ou deux régionales, une ou deux saisonnières. Je pense que c'est une bonne manière de commencer et d'établir un business. En gros, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire. Focus, quality, tout ça. Merci.
Bravo.
Merci Jérôme, je pense qu'on peut l'applaudir encore bien fort. Et maintenant, toute l'équipe des brasseurs qui font du ski, vous êtes invités à la raclette bière qui se trouve juste derrière vous. Donc c'est parti pour la raclette et puis après on rentre sur Nada. Merci Jérôme en tout cas pour ton speech. Et puis on remet la musique pour tout le monde.
Ceux qui Antonio, pas c'est bon ta pizza.
Merci Jérôme.
Merci.
Merci.
C'est pas éteint.
Bah ouais. Merci beaucoup.